Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP pour ce nouveau direct dans Famille, Justice, Enfance. Depuis les studios de Coulommiers, l'émission sur la famille contemporaine occidentale. Aujourd'hui, nous allons parler institution. Comment est-ce que l'institution fonctionne? Nous allons analyser dans cette série, on avait fait l'UDAF, on en a fait certains. Aujourd'hui, on va parler de l'IGAS, l'Institut de gestion des affaires sociales. Et pour ce faire, nous recevons Madame Hélène Stroll. Madame Hélène Stroll, ancienne inspectrice générale des affaires sociales, qui est une énarque après des études d'histoire et qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre. Madame Stroll, bonjour.
Auditrices, auditeurs, bonjour à vous.
Bon, bonjour madame, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, vous avez commis un certain nombre d'ouvrages avec votre ami, votre mari, Michel Maffezoli. Certains aussi que vous avez écrit vous-même, l'état social ne fonctionne plus, être postmoderne, la faillite des élites. Et pour commencer, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'IGAS? On en entend parler, mais en fait, concrètement, de quoi s'agit-il?
Alors, l'IGAS, c'est ce qu'on appelle une inspection générale.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est un service qui est à la disposition des ministres qui sont compétents en matière sanitaire, sociale, emploi, pour assurer le contrôle du fonctionnement et de la bonne application des politiques publiques de ce domaine. En quelque sorte, vous connaissez, tout le monde connaît la Cour des comptes qui est, qui regarde plutôt d'un point de vue financier l'application des politiques. L'IGAS est plus spécialisé que la Cour des comptes. On n'a pas une vocation générale, on ne s'occupe pas d'agriculture ni d'industrie, on s'occupe que de santé, d'emploi, d'affaires sociales, de sécurité sociale, mais on doit analyser non seulement l'aspect financier et la dépense, s'il n'y a pas de détournement et autre chose, mais on doit également analyser le bon fonctionnement, est-ce que les politiques sont bien appliquées, est-ce que les usagers, finalement, ont un bon service public. En fait, on est une inspection qui s'assure de la qualité du service public en matière de santé, en matière d'action sociale, en matière de sécurité sociale, en matière de travail-emploi.
D'accord. Donc, en fait, c'est un outil des gouvernants pour aller auditer l'existant.
Voilà. Alors, je dois dire que c'est à la fois un outil des gouvernements, mais c'est aussi, en principe, un contrôle des gouvernants. C'est-à-dire que, en tout cas, quand elle a été créée, l'IGAS était une institution indépendante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était nommé dans ce corps, à différents grades, on ne pouvait pas être viré. Et donc, on pouvait, un peu comme des juges, et donc, on pouvait, finalement, on avait une grande indépendance dans nos rapports. Et nos rapports étaient des rapports que les ministres ne pouvaient pas changer.
D'accord.
Voilà. Alors, je dois dire, le président actuel de la République a malgré tout changé ça. Ah. C'est-à-dire que maintenant, l'IGAS n'est plus un corps de personnes qui sont nommées, qui sont inamovibles, mais est un service dans lequel les gens sont nommés par le ministre pour une durée de 5 ans, éventuellement renouvelable 3 ans, je crois.
D'accord.
C'est-à-dire que, de mon point de vue, l'inspection a beaucoup perdu de son indépendance.
Alors, juste pour savoir, qui peut saisir l'IGAS? Est-ce que le particulier, l'usager peut saisir l'IGAS et s'adresser à l'IGAS?
Alors oui, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau et selon une procédure qui a été mise en place une fois que j'avais quitté l'IGAS, hein, j'ai quitté l'IGAS il y a maintenant longtemps, j'ai 76 ans, je ne suis pas du tout une jeunette.
Vous êtes contrôleuse honoraire, je crois, c'est ça. Hein.
Mais c'est vrai que les particuliers peuvent la saisir, mais ils peuvent avoir même une espèce de statut de lanceur d'alerte, mais c'est quand même, il me semble que c'est assez rare. Hein, c'est assez rare.
D'accord, parce que nous sommes un certain nombre à avoir essayé et on ne nous a pas répondu, ou alors on ne savait pas comment il fallait faire. C'était aussi la question, on voulait savoir si nous, en tant qu'usagers, lorsqu'il y a un problème avec l'administration, l'IGAS pouvait être un contre-pouvoir ou un recours. On voulait savoir ça.
Mais vous savez, l'IGAS, c'est à peu près une centaine de personnes, donc vous imaginez le nombre d'établissements et le nombre de... Donc c'est quand même un contrôle... L'IGAS, c'est plutôt des missions plus générales. On contrôle plutôt un établissement. On contrôle le service de l'ASE d'un département, mais on ne se penche pas sur des cas particuliers. L'IGAS n'a aucune compétence sur des cas particuliers. Combien il y a de personnes à l'IGAS?
Oui, à
une centaine.
Près. Une centaine,
sont,
voilà.
Il y a à peu près une cinquantaine qui sont des gens issus de l'ENA. Après, il y a des médecins de santé publique. Il y a des inspecteurs du travail. travail, inspecteurs généraux du travail. Voilà, c'est à peu près ça. Ben, le budget annuel de l'IGAS, je n'en ai aucune idée, mais ce sont les salaires des inspecteurs, les frais de déplacement. En tout cas, quand j'y étais, on se déplaçait sans problème. En seconde classe, c'était moins de 3 heures. Et voilà, en train, on allait dans des hôtels un peu sordides, comme tous les gens de l'administration. Et puis, voilà. Donc, le budget de l'IGAS, c'est ça. Par exemple, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance.
Oui, allons-y.
L'IGAS, quand moi j'y étais, mais je pense que c'est encore le cas, fait à peu près 2 à 3, contrôle à peu près 2 à 3 départements par an.
D'accord.
Ça veut dire qu'un département a une chance d'être contrôlé à peu près tous les 30 ans. Donc, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que quand je travaillais moi sur ce sujet, j'avais proposé, on donne publicité à un guide qu'on avait élaboré de contrôle, de manière à ce que les départements puissent s'en servir eux-mêmes, faire un auto-contrôle, vous voyez.
D'accord. Alors, je sais que le domaine de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance vous tient à cœur. Ce sont des choses qui reviennent dans vos ouvrages. Vous avez quelques interventions sur Internet, notamment avec Stéphanie Reynaud, que je salue, ainsi que d'autres. C'est un domaine que vous aimez bien. Moi, je voulais savoir, en fait, quel est vraiment le poids de l'IGAS. Parce que quand on vient inspecter avec des critères. Parfois, les instructions viennent d'en haut et autres. Et je voulais savoir un peu quel était le cadre, ce que vous recherchiez, et quelle était votre influence, en fait, sur l'environnement de l'ASE départementale.
Alors, écoutez, vous savez que depuis les lois de décentralisation de 86, ce sont les départements qui ont la compétence en matière sociale et notamment en matière d'aide sociale à l'enfance. La loi le bien, le service d'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un établissement public, c'est directement un service du département. Dans l'administration du département, il y a direction de l'enfance qui gère le social à l'enfance. Elle la gère complètement, c'est-à-dire que c'est ce service qui met en place une cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes et ensuite ce service prend des décision, comme c'est en accord avec les parents, il les prend directement, et quand ça n'est pas en accord avec les parents, il en réfère au juge des enfants. Et ensuite, la mise en œuvre de ces mesures est faite par soit directement par le département. Par exemple, il y a des départements qui gèrent directement l'accueil familial, c'est-à-dire que les accueillants familiaux, les familles d'accueil, sont, ça dépend si c'est l'homme ou la femme, sont salariés du département. L'assistant familial est salarié du département. Le foyer de l'enfance, par exemple, qui est l'accueil d'urgence dans un département, peut être géré directement par le département. Et ensuite, vous avez, comme dans tout le social, pour les handicapés, c'est la même chose, vous avez un certain nombre d'établissements ou d'associations d'accueil familial, c'est-à-dire salariant eux-mêmes des accueillants familiaux, qui sont des associations que le département paye. C'est un contrat annuel et il les paye pour le travail qu'ils font. Donc quand on dit par exemple l'ASE touche beaucoup d'argent des départements et c'est pour ça d'ailleurs qu'il place facilement, c'est complètement faux. L'ASE représente une dépense très importante pour les départements, environ 40% au moins de leur budget, le social étant l'essentiel du budget départemental quand même, et ça leur coûte cher, et je peux vous assurer que, à moins que ça ait beaucoup changé, les départements ne sont pas du tout à la recherche de prise en charge d'enfants de l'ASE. L'ensemble, ça coûte déjà 9 milliards, quand même, c'est 9 milliards de dépenses.
Ah, on est à 11 milliards en 2023, et effectivement, je pense que les départements ne sont pas très contents ou très heureux d'avoir à gérer quelque chose qui n'est plus centralisé.
La décentralisation française est stupide. Je veux dire, et donc les départements peuvent pas aimer ça. Les lois sont décidées au niveau central et les départements sont chargés de mettre en œuvre. Donc c'est un peu. Mais en matière d'aide sociale à l'enfance, comme ce ne sont pas des prestations, c'est en quelque sorte une action, vous voyez bien que selon les départements et selon la manière dont ils s'y intéressent, vont y consacrer plus ou moins de moyens. Et donc, c'est sans doute pas une bonne chose d'avoir décentralisé ça comme ça. Je me souviens bien qu'à l'époque où ça s'est fait, beaucoup de gens disaient qu'on aurait dû, on ne devrait pas décentraliser ça parce que ce sont des populations finalement qui ne sont pas des électeurs. Aussi bien les parents des enfants de l'ASE que les enfants de l'ASE, ce ne sont pas forcément des électeurs que les élus départementaux ont envie de s'occuper. Ceci dit, c'est pas pas tout à fait vrai, ça, parce que il y a quand même à l'ASE des fonctionnaires, des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance, et ces gens-là, ils s'intéressent beaucoup à intéresser par leur travail.
J'ai quand même beaucoup de témoignages qui nous reviennent, nous avons énormément de témoignages qui nous reviennent, d'une espèce d'emballement du système. On est à 11 milliards d'euros en 223, il y a 405 000 mineurs, on a 3% de la population aujourd'hui qui est concernée par
l'aide sociale. Pardon, je vous entends mal. Hein.
Oui, alors nous avons 3% de la population qui est concernée par des mesures d'ASE ou d'AEMO. C'était à peu près 11 milliards d'euros en 2023 et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se plaignent que les enfants vont beaucoup moins bien une fois qu'on va s'en occuper que auparavant. Est-ce qu'à votre époque, c'était aussi des choses que l'on entendait ?
Non, non. Vous parlez des enfants qui sont chez des assistants familiaux ou des enfants qui sont
dans
des...
Je parle de ASE plus AEMO, je parle de l'intervention de l'État, je parle en fait du sentiment qu'on a de la remise en cause de l'autorité parentale et je parle en fait du rapport Santiago de l'an dernier qui dit que l'ASE est un désastre et que les enfants dont l'État s'occupe sont très souvent dans un état bien, 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 bien pire qu'ils étaient avant l'intervention de l'État.
Oui, alors moi je pense très réellement qu'effectivement il y a l'ASE souffre des mêmes difficultés. Je pense que le secteur social et le secteur médico-social dans son ensemble et notamment sans doute d'une moins bonne formation et d'un moins bon suivi des professionnels, ça c'est vrai. Je pense que l'ASE souffre également, et ça c'était déjà à mon époque, d'un vrai déficit de stratégie du service finalement d'évaluation. Quand j'étais à l'IGAS, c'était une des dernières choses que j'ai faites, nous avions mis en place un guide de contrôle des services de l'ASE. Et véritablement, ça n'a pas été fait. Hein. C'était contrôler non pas seulement les moyens alloués, est-ce qu'ils dépensent bien ce qu'il faut dépenser, est-ce qu'ils font ça selon les règles, mais également quels sont les résultats. Parce que l'ASE, c'est une chose qui est extrêmement difficile. On pourrait peut-être comparer ça un peu à ce qui se passe en médecine ou même en psychiatrie. C'est-à-dire que vous êtes toujours entre deux, je dirais, vous avez deux risques. Vous avez le risque de ne pas intervenir, finalement de ne pas faire de prévention et d'avoir des enfants qui... chaque année, il y a des enfants qui meurent. Hein.
D'après le rapport de l'IGAS, 72 enfants entre 2012 et 2016. C'est-à-dire qu'on a 72 enfants par an, effectivement, qui meurent. Voilà. Par contre, voilà. On n'a pas du tout les chiffres des enfants qui meurent dans l'ASE parce qu'il n'y a pas de traumatisation et on n'a pas de statistiques.
Oui, on a du mal à avoir ces chiffres. Moi, j'avais lu à l'époque une enquête qui avait été commencée par une médecin et qui montrait que sur un certain nombre de morts d'enfants, notamment très petits, il y avait un déficit d'investigation. Voilà. Mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué hein, parce que comme vous êtes affaire à une mort d'un nourrisson, c'est aussi difficile. Et l'ASE va, et la justice va être aussi bien, j'ai écouté votre émission sur l'enfant qui avait été retiré à sa mère, et la mère incarcérée, vous voyez, c'est un risque, et l'autre risque...
Oui, avec Georges Domergue, oui, maître Georges Domergue, bien sûr, tout à fait. Mais alors ça si vous voulez, j'ai deux minutes pour le dire, j'ai l'impression qu'à une époque, il y a eu un courant de pensée, avec Maurice Berger et d'autres, qui a constitué en une attaque sur la famille traditionnelle, sur le lien familial, et qu'en fait aujourd'hui, personne ne prendra le risque, et en fait, aujourd'hui dans les tribunaux, l'autorité parentale, ça consiste à avoir accès aux informations administratives et l'État vient pour un rien et vient essayer de s'occuper des enfants, n'a pas les moyens de le faire et ça explique peut-être des résultats qui sont... peut-être qu'on est allé trop loin dans cette intervention de l'État. Mais c'est possible que je me trompe. Hein.
Alors, écoutez, le problème de l'ASE, c'est que ça a toujours été un balancier. Mmh. Vous êtes jeune, donc je ne connaissais pas. Moi, je me souviens, avant 81...
C'est pour ça que je vous demande.
Il y avait eu le rapport Bianco-Lamy.
Oui.
Et le rapport Bianco-Lamy, vous savez, disait essayer de prendre le contre-pied de ce que c'était passé jusque-là, de la DAS qui prend les enfants, et donc disait mieux vaut de mauvais parents qu'une bonne institution. D'accord ? On est allé là. Et puis Maurice Berger est arrivé très longtemps après, quand même, au début des années 2000, ça devait être en 2004 ou un truc. Et il a dit, il y a trop d'enfants qui sont laissés avec des parents maltraitants, etc. Et ça donne des adolescents hyper violents. Voilà. Et puis après, on est de nouveau allé dans l'autre sens. Moi, le problème,
personne... Aujourd'hui, on n'est pas dans l'autre sens du tout.
Oui. ...ne veut avoir de ce qu'on fait dans d'autres disciplines, c'est-à-dire avoir quand même des guides qui permettent de prendre des bonnes décisions. Je veux dire, les juges, ils ne connaissent rien.
Mais personne n'y comprend rien.
Il y a des juges qui n'y connaissent rien.
Je suis d'accord. Personne n'y comprend rien. C'est une matière qui n'est pas définie, qui n'est pas écrite. Personne n'y comprend rien.
Il y a beaucoup de... Vous ne vous souvenez pas, Maurice Berger, il prenait ses petits cubes et puis il disait il faut évaluer l'état de développement
mais
de l'enfant.
Maurice Berger, si on l'écoute, il n'y a plus de famille et c'est l'État qui s'occupe des enfants, ça n'a jamais fonctionné et c'est une catastrophe. Si on écoute Maurice Berger, le lien parental, le lien d'attachement n'a absolument aucune valeur, ça a été contredit par toutes les études universitaires récentes.
J'ai connu le Maurice Berger du début, qui disait maintenant c'est horrible parce qu'il mettrait tous les ados en prison, etc. Mais
vous voyez, il est allé un peu loin, il est allé un petit peu loin quand même.
Oui, bon. Maintenant il va un peu plus loin hein, quand
bon,
même.
Hein. Voilà, il faut le dire quand même, parce que beaucoup de gens l'écoutent toujours et puis à la fin, on a quand même...
Ah oui, non, mais maintenant c'est terrible. Alors que quand il était au début, enfin, je l'ai connu, il s'occupait des adolescents ultra-violents. Oui. La question c'est véritablement, c'est que on peut pas faire de généralité dans ce cas-là. Donc personne n'a raison, personne n'a tort. Il faut simplement dire qu'on ne peut pas prendre des décisions sans avoir fait un examen complet de l'enfant, du point de vue physique, du point de vue psychologique, du point de vue social, d'avoir fait un examen complet des capacités parentales, etc. Et évidemment, comme dans le social, comme dans le médical, on a un peu tendance à ne pas écouter les parents, hein, les médecins font pareil, on ne prend pas des décisions qui sont, dans un certain nombre de cas, erronées, c'est vrai.
Il y a une façon de savoir si on a raison ou pas. Ce sont tout simplement les résultats. Et les résultats, on est obligé de dire que l'aide sociale à l'enfance ne produit quasiment aucun enfant en études supérieures et en fait nous produisons des punks à chiens. Je vais rapidement hein, si vous voulez, mais ils sont tous en déficit scolaire, ils sont déscolarisés à 14 ou 15 ans, ils sont drogués, tatoués, révoltés contre la société. Moi je suis pas sûr que les 450 000 mineurs là dont on s'occupe, si les parents s'en étaient occupés, encore une fois je pense qu'il y a une balance, il y a un critère à regarder, à partir de quel moment faut-il intervenir et peut-être que l'on intervient trop rapidement et peut-être qu'on pourrait soutenir les familles avec tout l'argent qui est dépensé.
On intervient pas rapidement, au contraire, on intervient tardivement.
Ça dépend madame, excusez-moi, franchement je vous assure, moi j'ai plein de
dans
cas.
Les cas graves, dans les cas graves, écoutez, on intervient soit dans les de 0 à 3 ans, quand il y a véritablement des mauvais traitements physiques ou des parents véritablement qui abandonnent, qui s'occupent, délaissent leur enfant.
Là, c'est normal. Et il faut le faire.
Là, c'est normal, bien sûr. Ensuite, on n'intervient pas parce que l'enfant, en général, c'est très rare que l'enfant soit violent. On devrait s'en préoccuper quand même. Un enfant très violent dans un âge petit, on sait que c'est qu'il est soumis chez lui à des violences.
Absolument. Hein. Ça, tout à fait. Ils sont nombreux à être venus ici, me l'ont dit. Je suis d'accord.
Je vous assure que vous voyez les pics de placement, c'est à partir de 12-13 ans. C'est l'entrée dans l'adolescence. Et c'est souvent
tardif. Moi, j'ai plein de cas, si vous voulez, où ils sont à la maternité, une femme seule, isolée, assez peu entourée, elle est en danger par la ZE pour perdre son bébé dans la maternité, si vous voulez. L'importance du lien parental aujourd'hui est sous-estimée. Et ça pose un problème parce que nous avons des enfants qui, eux, sont véritablement agressés. Je parle de cas avec rééducation anale, rééducation du sphincter, des trucs où vraiment il s'est passé des choses et tout. Et là, on n'intervient pas du tout. Je pense que nous gérons trop de dossiers, ce qui nous empêche de les gérer correctement et de se consacrer aux cas graves.
Oui, c'est vrai. Mais alors, dans les pouponnières, là aussi, il y a eu des... Moi, je peux vous donner les cas contraires. Je me souviens de ce dossier parce qu'il m'avait beaucoup frappé, d'une mère qui avait déjà eu 7 enfants qui étaient enceintes tiennes. Les 4 aînés étaient placés. Les 3 suivants étaient déjà en action éducative. Et je disais à la juge, peut-être qu'on pourrait donner, et là, pour le coup, je pensais vraiment, qu'on pourrait donner à ce 8e enfant une chance d'avoir des parents adoptifs.
Et pourquoi ? Et pourquoi la mère, sous prétexte qu'il y a eu des ratés auparavant ?
Parce qu'elle en avait eu 7 qu'elle avait bousillé déjà.
Ah, donc ça m'est...
Mais
est-ce qu'un cas particulier peut influencer ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que la recherche du 100% et l'étude des cas particuliers extrêmes doivent-ils influencer la méthodologie utilisée sur les groupes majoritaires ? Parce qu'après, sur l'ensemble de la population, on applique des principes qui sont utilisés pour des cas extrêmes.
Non,
si, madame.
Vrai.
Si, mais si.
Je pense pas à ça. Moi, je pense...
Aujourd'hui,
je pense
personne ne prendra le risque.
La vraie décision de savoir si un enfant est en danger, parce que, voilà, un enfant est en risque de danger ou il n'est pas en risque de danger. C'est très difficile à apprécier, l'enfant en danger.
Voilà, donc personne ne prendra le risque de ne pas le placer. L'IP, personne ne prendra le risque après une inspection. Ah ben, je vous assure que non, madame. Je vous assure que non. J'ai énormément de cas, des dénonciations calomnieuses et autres. L'enquête dure 4 ans à 4 ans et demi. Vous savez qu'aujourd'hui, les placements, c'est près de la moitié. C'est des parents qui ne s'entendent pas ou qui divorcent. Et les enfants qui sont en fait sur un doute, sur une présomption, sur une dénonciation d'un voisin, une dénonciation d'instituteur, vont être mélangés à des vrais cas de délinquance, de viol, alors qu'ils n'étaient pas du tout confrontés à ça. Enfin, madame, nous avons un certain nombre de foyers à Périgueux qui sont maltraités. Temps pour les enfants, tout le monde le sait, et on y envoie les gosses pour un oui ou pour un rien, c'est une institutrice, c'est une déclaration.
Je ne pense pas que vous m'étonnez beaucoup, parce que moi, ce que j'ai
peut-être que les choses ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans.
Peut-être, peut-être, c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait il y a 20 ans, c'est il y a 15 ans quand même.
Hein. D'accord. Oui, mais il y a beaucoup de problèmes depuis le Covid.
Ah, alors ça, là, c'est...
Ça montait c'est avant, et depuis le Covid, il y a eu une explosion. Et surtout depuis que l'État a commencé à dire qu'il fallait vraiment s'en occuper, et a commencé à dire qu'il fallait vraiment intervenir, personne ne prendra la responsabilité de ne rien faire.
Et oui, parce que vous voyez bien, par exemple, je vois bien comment ça se passe. Regardez le cas de cette adolescente là, de Sanary. D'abord, je trouve... extraordinaire que l'éducation nationale fasse suite à un signalement au procureur de violence, qu'il y ait une enquête et tout, mais que cet enfant n'ait jamais eu de, pas d'écoute psy, de gens bienveillants, de gens qui l'aident à être bien dans sa peau, etc., et dans sa famille. Effectivement, tout le temps, dans l'aspect investigation, justice, répression, c'est ce qu'on entend à longueur de temps sur les chaînes d'information continue.
Hein, il manque un métier, c'est le protecteur des droits de l'enfant qui devrait être présent à chaque fois qu'un enfant est concerné par une affaire judiciaire ou par un...
Normalement, il y a...
vous voyez, l'histoire du bébé projeté...
Mais il y a des avocats.
L'avocat n'est pas le protecteur de l'enfant. L'avocat, c'est un...
Ah si, vous avez des avocats d'enfants, bien sûr.
Mais non, madame.
Mais
non, madame.
Mais non. Mais j'ai été...
J'en suis à mon 9e, et puis en tant qu'associatif, et on va passer un certain nombre. L'avocat est un intervenant privé qui monnaie ses interventions. L'avocat n'a pas de formation spécifique et l'avocat va à la baston. Il va à la guerre. Or, la famille, l'enfant, ce n'est pas la guerre. Vous voyez ? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas parce que vous donnez plein d'argent à un avocat pour aller rentrer dans l'art que vous allez faire du bien aux enfants. Il y a un très gros problème sur ça.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Vous avez interrogé un ancien magistrat et j'étais totalement d'accord avec lui pour dire que de toute façon, la seule solution, effectivement, c'était la médiation. Parce que vous avez un certain nombre de ces cas où l'AGE se saisit qui sont quand même des conflits au départ parentaux. Hein.
Et je aujourd'hui, pense, oui, moi, beaucoup plus qu'auparavant.
Le droit ne peut rien régler dans ces affaires-là. Effectivement, il faut obliger les parents là, à habiter jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une solution pour cet enfant qu'ils ont quand même fait ensemble. Bah, quoi.
Ça va encore plus loin que ça, si vous voulez. C'est que les codes de procédure civile et les codes civils ne sont pas respectés au niveau des instances du juge des enfants. On a un problème de séparation de pouvoir entre le JAF et le JDE. Le JDE s'attribue des pouvoirs qui ne sont pas les siens en empiétant sur le JAF. Ils ne respectent jamais les codes de procédure civile. Ils font des mesures temporaires parce que celles-là les autorisent à envoyer les enfants au département. Donc, ils prolongent les mesures temporaires en prenant jamais décision sur le fond. C'est devenu un boxon. Je pense qu'en fait, ils sont débordés par le nombre de dossiers qui leur arrivent.
Oui, oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison sur les cas dont vous vous occupez et vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que vous avez énormément, malgré qu'il faut le reconnaître, de cas d'enfants délaissés, de cas d'enfants dont les parents ne s'occupent pas.
Ah non, mais c'est pas de cela dont je parle, moi. Ça, c'est pas de cela dont je parle.
Mais oui, tout à fait. Je pense qu'il y en a énormément.
Oui, mais tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des enfants délaissés qu'il faut empêcher des parents aimants de s'occuper de leurs enfants, alors que... Parce que des fois, le doute, la présomption devrait leur bénéficier, et puis parfois aussi, un petit soutien ponctuel devrait quand même les aider.
Moi, je pense surtout que c'est ça, qu'un soutien ponctuel devrait les aider, bien
parce qu'à 3-4 000 balles par mois pour un gosse placé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une famille qui a envie et qui pourrait s'occuper de son enfant?
C'est pas lié à l'argent, hein, excusez-moi. Hein,
non, je suis d'accord. Un enfant a besoin d'amour, pas d'argent, ça c'est encore un de nos grands combats, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Non, c'est pas ça, mais c'est que vous voyez bien que c'est quand même une des choses dans lesquelles, et Dieu merci, les pauvres ne sont pas des mauvais parents. Hein.
Ah oui, il faut arrêter de taper sur les gens, je suis bien d'accord avec vous.
Mais en revanche, c'est vrai que, vous voyez, c'est ça le problème avec l'AGE, c'est qu'on ne peut pas avoir de doctrine. On ne peut pas avoir de doctrine. Vous avez vu les textes de loi quand même, qui définissent quelles sont les compétences de l'AGE. Ils sont extrêmement... C'est sympa des textes juridiques. On peut pas dire oui, non, il faudrait évaluer. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans l'évaluation des informations préoccupantes.
Hein. La prévention,
bien évidemment, pas du tout traité de la même façon. Une information qui arrive, je sais pas moi, par l'école, qui arrive par le centre de loisirs, qui arrive par des gens qui n'ont pas un rapport direct
avec
les parents. Une information qui arrive d'un parent sur un autre parent, ou bien qui arrive de voisins ou de gens qui peuvent tout simplement...
Parce que ce sont les administratifs, les gens qui font les enquêtes, les gens qui font les IP, ce sont les assistantes sociales, ce sont les administratives. Elles n'ont aucune connaissance du traitement de ce qui se passe après, ce ne sont pas des éducateurs. Nous disons qu'il faut brasser les intervenants et que les gens qui ont fait leur carrière en foyer, en éducatif, fassent partie de la prévention. Parce que les gens qui font la prévention n'ont aucune idée de ce qui arrive aux gosses dans les endroits où ils les envoient.
Il y a des éducateurs aussi, et des éducateurs et des assistants sociaux dans les services...
Les assistantes sociales, les IP, c'est les assistantes sociales, ce ne sont pas des éducateurs. Elles n'ont aucune formation en éducatif, en psychologie. psychologie, etc.
Normalement, ils sont formés, ce sont pas des inspecteurs ASE, ce sont pas des administratifs. Mais bon.
Ah, les gens qui se déplacent et qui font les informations.
Les gens qui font les enquêtes,
les informations préoccupantes, sont en grande majorité des assistantes sociales qui n'ont jamais travaillé auprès de populations dans le cadre d'une mission éducative.
Alors, est-ce que vous avez justement dans votre travail, là, dans votre militance plutôt, est-ce que vous avez des rapports avec les écoles de formation de travailleurs sociaux? Parce que assistant social, vous savez, c'est vrai que je regrette beaucoup, moi, que ça devienne de plus en plus une formation un peu trop administrative ou un peu trop livresque, mais il y a des instituts de formation de travailleurs sociaux qui sont pas tout à fait comme ça, et je trouve que ce serait intéressant.
J'ai eu plusieurs enseignants des IRTS, j'ai un très très grand respect pour les IRTS, j'ai moi-même tenté l'IRTS deux fois quand j'avais 20 ans. La formation des IRTS éducateurs, c'est 3 ans, c'est une vraie formation, c'est pas quelque chose qu'on fait en 6-8 mois en alternance ici ou là. Quand on est vraiment passé par cette formation initiale là, c'est un vrai métier, et généralement les gens qui sont issus de ce sérail, de cette formation là, sont extrêmement d'accord avec nous, avec l'ouvrage qu'on a écrit et autres, et ils pensent aussi qu'il faut que les intervenants, les métiers soient mélangés, que ce soit moins cloisonné et que les gens sachent ce que font les autres services. Moi, j'ai quand même des juges qui m'ont dit ignorer, savoir ce qui se passait dans les points en compte médiatisés. Moi j'ai parlé à Gérard Poussin, il m'a expliqué quand ils avaient créé les centres médiatisés, pourquoi ils les avaient créés. Je regarde l'usage qu'on en fait aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui a été fait au départ. J'ai regardé les gens qui y travaillent, les gens qui n'y travaillent pas ne savent pas ce qui se passe dans les points en compte médiatisés, et je pourrais le décliner comme cela à l'infini.
J'espère que je ne vous ai pas paru trop administratif.
Non, mais c'était très bien.
Je voudrais quand même terminer là-dessus.
Allez-y.
C'est très compliqué parce qu'on a toujours un point de vue, je dirais. Il faut savoir d'où on parle. C'est vrai qu'on peut parler au nom de l'enfant, on peut parler au nom du parent, hein. On peut parler au nom de... voilà. Et donc, c'est toujours, il faut toujours savoir essayer de ne pas faire de projection. Essayer, et c'est ça le problème. Quand le juge prend une décision, souvent, le juge, il est parent, il peut qu'il soit lui-même en conflit, etc. Et bien, il va faire de la projection. Donc, c'est vrai qu'il faudrait introduire énormément de formation, je dirais, à la gestion du transfert, pour employer un terme si, je pense que ce serait extrêmement important. Et je pense qu'il faudrait aussi que les décisions soient beaucoup plus collectives, c'est-à-dire qu'il y ait pour chaque décision une espèce de discussion avec les parents, avec un éducateur, avec un psychologue, éventuellement avec un... Vous comprenez ? De manière à ce qu'on prenne des décisions. Une décision qui est prise contre les parents est une mauvaise décision.
Voilà. Ah, celle-là, il faut l'encadrer, celle-là. Oui, mais tout... Après, c'est un choix de société d'avoir confié la gestion de la famille et du civil à des personnes en début de carrière et donc qui n'ont pas eu le temps d'enfanter, qui n'ont pas eu le temps de construire des familles, d'avoir une expérience de vie.
Ça, c'est le problème, vous savez, de beaucoup de choses. Hein. C'est le problème des enseignants qui sont dans les classes les plus difficiles,
qui sont les plus jeunes. Ah oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison.
Le juge des enfants ou le JAF, ils sont souvent les plus jeunes parce qu'après, ils veulent aller dans des plus importantes, ils veulent aller être procureur ou ils veulent être, etc., ou président de tribunal. Et ceux qui restent, ceux qui ont une vraie compétence, il n'y en a pas tellement. Moi, je me souviens d'une juge dans l'Hérault, quand on avait fait un troll. Elle avait fait de l'immobilier pendant toute sa carrière. Et puis, à 55 ans, elle avait divorcé. Elle avait envie de revenir dans son département d'origine. Il y avait un poste de juge des enfants qu'elle avait pris. Elle n'avait aucune compétence. Mais alors, aucune.
Hein. Ah, il y en a quelques-unes.
Voilà. Okay. Donc, mais moi, je pense que c'est des décisions trop difficiles pour qu'elles soient prises comme ça. Le juge, il prend des décisions en un quart d'heure.
Ah, oui.
Il a feuilleté le dossier vaguement avant.
Ah oui, et il vous interdit de parler parfois d'ailleurs, en plus.
Ouais. Et d'ailleurs les inspecteurs de l'ASE aussi, enfin moi bon. je sais pas.
Non mais c'est intéressant.
On évalue la situation d'un enfant, il faudrait faire comme on faisait dans les bons établissements, ça n'existe quasiment plus, les bons établissements de l'enfance handicapée, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de réunion de synthèse pendant lesquelles les différents professionnels, les parents, discutent pendant 1 heure, 2 heures d'essayer d'analyser le cas et de trouver la meilleure solution.
Ah, mais dans une époque, dans les IMC, dans certains établissements, des réunions comme ça, il y en avait au moins 2 par semaine, plus les repas pris en commun où les gens parlaient.
Oui, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il y a un manque de travailleurs sociaux énorme.
Bien sûr.
Et puis, d'autre part, les établissements et l'ensemble des services ont descendu sans cesse les niveaux, je veux dire. Là où autrefois, on avait des éducateurs, on a des moniteurs éducateurs, là où on avait etc.
Les intérimaires.
Donc, comme en même temps, malgré tout, le niveau, disons, scolaire et même de formation n'est plus non plus le même, vous vous avez, je pense que l'éducateur d'il y a 30 ans, c'est pas l'éducateur de maintenant.
Ah, et madame, vous êtes d'une génération, c'est aussi pour ça que je suis content de vous avoir eu, parce que vous êtes en 1950, vous avez fait l'ENA à une époque où, à mon avis, vraiment, enfin, ça signifie quelque chose, l'ENA, mais vous êtes passé par vous, là, notre formation, quand elle avait vraiment ses plus belles heures de noblesse.
Hein, j'étais professeur d'histoire, ouais, ouais. Et j'ai fait l'ENA au concours interne, parce que, justement, je n'étais pas un professeur, vous voyez. Mais l'ENA, c'est pas une... C'est, vous savez, l'ENA, c'est un... Comme souvent, on recrute les gens, on sélectionne les gens, mais on n'est pas formé à l'école après.
Non, mais je veux dire, vous avez été inspectrice, vous avez fait partie, en fait, d'une certaine génération en assistant à la décentralisation et autres, et c'était intéressant d'avoir votre avis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup, madame, pour vos déclarations de ce soir.
Moi
merci
aussi,
à vous.
À bientôt, alors.
Merci, madame. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir.